pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour, et si nous avions une dette envers l'écologie, sachant qu'aujourd'hui il faudrait une terre et demie pour répondre aux besoins de la planète, l'idée se tient. En 2013, le seuil critique, c'est-à-dire le moment où la planète n'était plus en mesure de supporter les activités humaines de façon durable, a été atteint en août. Nous avons donc fini l'année 2013 à crédit pour tout ce qui concerne l'alimentation, les matières premières, le potentiel d'absorption des déchets et du CO2. Et oui, nous vivons à crédit, nous avons une dette. Mais comment la définir, la mesurer et surtout, comment la régler? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, Renaud Duterme, auteur de La dette cachée de l'économie, le scandale planétaire, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Et pour lui, la dette écologique justifie à elle seule l'annulation totale et inconditionnelle de la dette du tiers-monde.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Renaud Duterme.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant agrégé en sciences du développement de l'Université libre de Belgique. Vous publiez donc avec Éric de Ruest, hein, votre collègue, La dette cachée de l'économie, le scandale planétaire. Et vous collaborez régulièrement avec le CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors cette notion de dette écologique est de plus en plus utilisée, mais comme on a du mal à la cerner, eh bien finalement elle a peu de valeur opérationnelle, on a l'impression. Alors comment la définir? Qu'est-ce que c'est au juste?
Alors il y a plusieurs définitions possibles. On peut-être déjà revenir sur les origines du concept. Donc c'est un concept qui est apparu sous l'impulsion d'ONG sud-américaines dans les années 90. Et donc
90,
pardon, excusez-moi. Donc je viens de Belgique, comme vous l'avez dit, donc 90, et qui stipule en fait que l'essentiel du développement économique des pays du Nord, donc des pays industrialisés, Europe, Amérique du Nord, Japon et Océanie essentiellement, c'est fait sur base de ponctions toujours plus importantes des ressources naturelles des pays du Sud. Et donc partant de ce principe-là, on dit donc que le Nord aurait une dette écologique vis-à-vis du Sud.
Alors là, vous parlez de la notion géographique, mais vous la dépassez dans le livre. Il n'est pas question d'opposer le Nord et le Sud, parce que, tout simplement, certains États du Nord n'ont pas ponctionné le Sud, et puis certains États du Sud, on pense aux riches présidents africains, ont une dette envers l'écologie plus importante que le citoyen lambda dans le Nord de l'Europe.
Voilà, tout à fait. Donc ce concept Nord-Sud, à notre sens, est quand même important, mais malgré tout, il a ses limites. Et évidemment, comme vous l'avez dit, on ne peut pas opposer un Nord homogène à un Sud homogène. Au sein de chaque société, mais vous avez des classes sociales différentes qui, dans ce qui nous concerne, ont des empreintes écologiques différentes. Et comme vous venez de le dire, on ne peut pas opposer à l'extrême un cycliste écologiste du Nord avec un président sud-africain ou un homme d'affaires sud-africain qui passe sa vie dans des avions privés, etc. Donc clairement, il y a vraiment une notion de classe. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'au sein de chaque groupe, au Nord comme au Sud, vous avez des populations, la majorité selon nous, qui subit les conséquences donc des dégradations écologiques. Et on peut penser notamment, on prend comme exemple aux victimes des catastrophes naturelles, notamment à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis ou quoi. Donc même dans les sociétés les plus riches, vous avez une classe qui clairement subit les frasques de la crise écologique.
Quand on parle des pays du Nord, clairement, vous parlez des pays de la triade, c'est ça?
Voilà, on met la triade à laquelle on peut peut-être ajouter l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Alors la triade, il faut expliquer, c'est Europe, États-Unis,
la triade, Japon. C'est Europe, États-Unis, Canada et le Japon. Voilà, donc les pays dits industrialisés, même si aussi ces concepts sont assez flou. Ça permet, disons, d'avoir une idée des différences de développement, mais c'est des concepts assez théoriques et qui, des fois, ne reflètent pas toujours la réalité.
Peut-on la quantifier, cette dette écologique? C'est assez difficile, ça?
Alors, c'est difficile, oui, c'est assez difficile maintenant. Donc, c'est pour ça que nous, et donc, comme vous l'avez dit, je fais partie du CADTM, qui est le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Et c'est ça, ce qui nous a fait nous intéresser à ce concept, mais c'est que la dette écologique, c'est clairement un argument, et ça, c'est une réponse, justement, aux partisans des chiffres. C'est un argument supplémentaire à l'annulation totale et inconditionnelle de la dette des pays du Sud. Pourquoi ? Parce qu'on estime que dans notre livre, on remonte quasiment à Christophe Colomb, donc au début de la conquête
1492,
voilà, donc au début de la mondialisation, si on peut dire. Et donc à partir depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, on estime que les ponctions et donc le pillage des pays du Sud vaut largement la dette financière que les pays du Sud remboursent toujours actuellement aux grandes puissances.
Mais alors, comment la rembourser, cette dette? Comment la payer, l'honorer?
Alors, Là, on peut peut-être encore revenir aussi dans la dans la définition de la dette écologique. Nous, on va encore un peu plus loin par rapport à ça. C'est que non seulement il y a une dette vis-à-vis du Sud, alors comment la payer? Bah alors, ça, elle peut prendre plusieurs formes. Évidemment, c'est très difficile à quantifier. Ce qu'on peut déjà évidemment établir, et ce qu'on établit dans le livre, c'est sous forme de réparation à des dommages concrets qui ont été causés dans des pays du Sud. On pense notamment au delta du Niger qui a été complètement saccagé par l'entreprise Shell.
Alors ça, vous parlez du Nigeria, de l'exploitation du pétrole au
Nigeria.
Voilà,
du Nigeria, pardon. Donc des choses comme ça. Donc des catastrophes ponctuelles. Là, clairement, il faut des réparations et qui touchent évidemment les populations civiles. Donc ça, c'est quelque chose qui peut prendre cette forme-là. Ça peut également aussi prendre la forme d'un fonds pour permettre aux pays pauvres de réagir face aux catastrophes climatiques qui s'annoncent, puisque, comme vous le savez certainement, donc les pays du Sud sont les moins responsables des changements climatiques, et c'est eux, de par leur climat plus leur climat tropical et de par leur niveau de développement économique moindre, seront les plus touchés. Et donc, clairement, nous, on pense que les pays du Nord, et en tout cas certains acteurs dans les pays du Nord, à commencer par les grandes multinationales, devraient devoir alimenter un fonds pour permettre à ces pays-là de d'y faire face.
Un peu comme ce qui se fait dans le cadre de la santé avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, un organisme de prévention, mais qui serait financé par qui et comment les inciter à financer un fonds? Alors, ces multinationales que vous dénoncez clairement, hein, notamment celles du pétrole, de la chimie et de l'agroalimentaire.
Nous, clairement, on n'est pas pour les inciter, on est clairement pour les obliger, et donc ça peut se faire évidemment par des amendes drastiques, par, dans certains cas, des expropriations, des nationalisations de certains secteurs. Et donc, clairement, on n'est vraiment pas dans l'optique, nous, de compromis avec des multinationales, avec des acteurs qui sont mus uniquement par le profit. Et donc, nous, on est clairement pour le démantèlement, en tout cas, de ces oligopoles. Alors, comment ça peut se faire? Mais évidemment, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et ça passera par une conscientisation de plus en plus importante de la population et par des mobilisations en ce sens. Et donc, d'où le but de notre ouvrage. La tâche est assez considérable, mais pour nous, elle est vraiment fondamentale.
Oui, parce que parler de dette écologique, c'est vouloir aussi construire une société plus égalitaire, plus solidaire. Ça va prendre du temps, ça, dites-moi, Renaud Duterme.
Ça va prendre du temps, mais le problème, c'est qu'on a plus on perd de temps, et plus on sera rattrapé par ce temps perdu, parce que les rapports, il y a encore le deuxième volet du cinquième rapport du groupe intergouvernemental d'experts pour le climat qui vient de sortir et qui prévoit encore des conséquences au changement climatique beaucoup plus alarmantes que celles passées. Donc clairement, là, on est vraiment à la croisée d'un chemin, et je pense qu'il faut, c'est Walter Benjamin qui disait qu'il faut tirer le frein d'urgence de le plus vite possible. Et je reviens aussi encore une fois sur la définition de dette écologique. Nous, il y a aussi une notion dont vous aviez mentionné tout à l'heure, le jour fatidique qui est dépassé, où il y a une dette écologique vis-à-vis des générations futures et vis-à-vis de la nature également, puisque on parle beaucoup maintenant de dette financière, mais à notre sens, une dette financière reste de l'argent. Là, on parle vraiment d'une dette, donc on ponctionne les ressources naturelles qui sont nécessaires à la survie de l'espèce humaine. Et donc, c'est à notre sens beaucoup plus important.
C'est ça, et le moine philosophe Mathieu Ricard en parle dans son dernier ouvrage. Quelles considérations avons-nous pour les générations futures? Parce que finalement, ce sont elles qui paieront le prix le plus fort de cette dette écologique.
Ce qui est même révélateur et surprenant, c'est que beaucoup d'économistes qui défendent le paiement de la dette publique, eux justement, amènent cet argument des générations futures pour justifier le paiement. Et donc du coup, nous, clairement, on pense que l'écologie doit primer, mais le problème aussi, c'est qu'on est dans une période de crise économique, qui fait que l'écologie passe vraiment au second plan, parce que les gens sont préoccupés plus à leurs conditions de vie directe.
Mais on vous parlait de la crise économique, on verra un peu plus tard que la crise a bon dos.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Struggling to pay back the money that you loaned me. know how things can get. Times are tough when you can't pay the rent. Living off the good graces of friends is getting old. Take a look at my business plan.
Snipping and snipping off the motherland.
I'm gonna drag this into town and try and get it sold, yeah.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la dette écologique avec notre invité, Renaud Duterme, auteur de La dette cachée de l'économie, le scandale planétaire, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, il est beaucoup question de capitalisme sauvage, de dette contractée par les pays en voie de développement et qui permet aux États les plus riches d'asseoir leur domination. On va y revenir, ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de pollution de masse, eh bien, on pense au pétrole, puisque c'est une des plus importantes sources de pollution. Et d'ailleurs, vous citez quelques exemples dans votre livre, Renaud Duterme.
Oui, donc le pétrole est vraiment une énergie qui, bon, on peut pas nier.
On en parlait avec le Nigeria tout à l'heure.
Voilà, ouais. On peut pas nier les côtés positifs du pétrole qui nous ont vraiment rendu la vie assez facile. Mais à quel prix? Puisqu'il y a vraiment des désastres écologiques, donc de la production à la consommation en passant par le transport. Et ce qui est assez aussi révoltant, c'est que beaucoup de scandales, notamment dans la production, ont lieu dans des pays en développement, comme le Niger, comme le Nigeria, excusez-moi, décidément, comme l'Équateur, où des cas assez médiatique et où c'est notamment dans le cas de l'Équateur où c'est les populations indigènes qui subissent vraiment les conséquences d'un mode de vie dont ils ne sont pas spécialement acteurs.
Alors ça, vous parlez de Texaco hein, qui a commis notamment, un des pires crimes écologiques justement en Amazonie. C'était plus de 100 millions de litres de substances toxiques qui ont été rejetées dans la nature et ça a détruit plus de millions de kilomètres carrés de forêt. Un énorme scandale au niveau du pétrole, mais pas que. Hein, ça touche également plus récemment l'explosion dans le golfe du Mexique de la plateforme Deepwater aux États-Unis.
Voilà.
Et avec ce cynisme quand même que vous racontez dans le livre, c'est sur les moyens d'empêcher ce pétrole de se répandre.
Oui, c'est notamment le cas dans la catastrophe du golfe du Mexique où on utilise des produits chimiques pour éviter qu'ils se répandent. Le problème, c'est qu'évidemment, ces produits chimiques n'ont rien de naturel et n'ont rien à voir avec l'écosystème dans lequel ils sont déversés et donc ont des conséquences, si pas plus dramatiques, en tout cas très très importantes pour les écosystèmes, pour les pêcheurs également locaux, etc.
Mais vous écrivez qu'ils sont encore pires que le pétrole lui-même, c'est
alors, oui,
toxique.
Mais...
Donc c'est quand même le comble du cynisme, ça.
Mais c'est ça, on est vraiment dans... Disons qu'avec dans le mode de production dans lequel on est dans une crise écologique permanente où, en général, les solutions qui sont amenées pour résoudre d'autres problèmes, mais ne font qu'en créer des nouveaux. Et ça, c'est le cas depuis deux siècles, si on reprend même un petit peu, je veux dire, pour les problèmes liés au charbon. Donc, le charbon a été remplacé par le pétrole, et donc, clairement, ça a permis d'éviter des pollutions qui étaient liées au charbon, notamment la pollution atmosphérique, mais ça a causé d'autres problèmes avec le pétrole. Et donc, on est vraiment dans une espèce de course en avant permanente, mais avec une crise écologique qui est de plus en plus globale, puisque maintenant, voilà, il n'y a quasiment plus aucune partie de la Terre qui est vraiment épargnée par des catastrophes potentielles.
Oui, mais à l'époque, on ne savait pas. Aujourd'hui, en 2010, les Américains ne peuvent pas dire on ne savait pas. On le sait, ça.
Ça fait une bonne cinquantaine d'années maintenant qu'on commence à savoir, d'abord sous les écrits et les déclarations de certains écologistes qu'on a toujours marginalisés et qu'on marginalise toujours, mais c'est clair qu'on remarque que la plupart des prévisions qui ont été faites depuis 30-40 ans se sont révélées vraies et d'autant plus souvent plus graves que les prévisions elles-mêmes.
Alors il y a l'exploitation du pétrole d'une part et son transport d'autre part avec son lot de catastrophes. Petit rappel des faits.
Bonsoir. Ah vraiment, nous sommes trop gâtés et ça commence à suffire. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des pétroliers au large et qui s'échouent sur nos côtes bretonnes pour abîmer ce que nous avons de plus beau et ruiner la saison des pêcheurs. Nous ne sommes pas loin du record du monde de pollution depuis ce matin. Avec ce pétrolier libérien, dont l'armateur est américain et l'équipage italien, ce pétrolier c'est l'Amoco Cadiz. C'est le quatrième à endommager la Bretagne en 11 ans. Avant lui, il y a eu... le Torrey Canyon, l'Olympic Bravery, le Bolène. Et la Bretagne en a assez d'être la côte de ses naufrages, de ses gros bâtiments, le dépotoir du pétrole brut.
Là, le naufrage de l'Amoco Cadiz, le supertanker libérien au large des côtes bretonnes le 17 mars 78. Le transport du pétrole pose clairement problème aujourd'hui.
Oui, ben disons en tout cas, on remarque avec on dresse la liste notamment des différentes catastrophes maritimes liées au pétrole ces dernières décennies, et c'est clair que voilà, on voit que le risque n'est absolument pas maîtrisé, mais donc il y a clairement un risque par rapport à ça. Et le problème, c'est que les conséquences sont assez durables dans le temps, puisqu'il y a toute une série de régions qui ont été touchées par des marées noires qui mettent des décennies voire plus pour vraiment s'en remettre.
Alors on pourrait aussi parler du dégazage au large des côtes, puisque plus d'un million de tonnes d'hydrocarbures sont jetées chaque année à la mer pour des questions de coûts, pour des questions d'économie. Pourtant, tous ces crimes restent souvent impunis, puisqu'il est très compliqué de faire condamner une multinationale. Avec le temps et beaucoup d'abdégnation, on peut y arriver. L'avocat Christian Huglot peut en témoigner. Il a réussi à faire condamner les responsables de la catastrophe de l'Amoco Cadiz dont on parlait tout à l'heure.
À la suite de l'affaire du Torrey Canyon, les milieux maritimes internationaux avaient inventé une convention qui focalisait la responsabilité sur le propriétaire du navire. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais le propriétaire du navire, c'était la personne au nom de laquelle le navire est immatriculé. Et ça permettait des pavillons de complaisance. Donc, j'avais le droit, d'après les conventions internationales, d'attaquer une personne qui était insolvable, à peu de choses près, pour terminer les choses. Comme les dommages étaient considérables, c'est environ 400-500 millions de francs de l'époque. Donc la commission d'enquête parlementaire avait dit que pour tout le monde, les collectivités publiques, les ostréiculteurs, tous les gens qui vivent du tourisme, c'était considérable. Donc il fallait trouver un endroit où on pouvait attaquer une personne solvable. Et on a eu cette idée, d'aller attaquer aux États-Unis la maison mère qui était propriétaire de la société, qui était elle-même propriétaire du bateau immatriculé au Liberia. Donc, la grande difficulté, c'était de démontrer la responsabilité des gens qui étaient tout en haut par rapport à ce qui se passait tout en bas. Grâce à la procédure américaine qu'on appelle la procédure de découverte, on a découvert que la maison mère était impliquée dans le trafic et le maintien du navire qui n'était pas en état de navigabilité, puisqu'il y a une grave panne de gouvernail. Et donc, on a fait engager la responsabilité de la maison mère pour les filiales. On a démontré que l'idée de mettre un bateau qui est tombé systématiquement en panne, qu'on ne voulait jamais réparer parce qu'il gagnait 300 000 dollars par jour, c'est une faute manifeste. C'est un grand précédent. C'est la première fois que ça se fait dans l'histoire du droit. Et c'est assez curieux, ça fait beaucoup de jurisprudence aux États-Unis, mais moins chez nous. Chez nous, c'est pas tout à fait le même système. Mais les États-Unis n'ont pas hésité un seul instant à reconnaître cette responsabilité qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'affaire Exxon, dans l'affaire Exxon Valdez par la suite. Mais par contre, on a échoué, on n'a pas gagné vraiment comme on le voulait sur la question des dommages écologiques, parce que le droit américain était très spécial, il n'indemnisait que les dommages causés par le contact direct avec le pétrole. Le juge a dit, de toute façon, c'était nettoyé pour le plus gros en juin 78, l'accident est de mars, donc tout ce que vous demandez après, vous ne l'aurez pas.
L'avocat Christian Huglot au micro d'Anne-Cécile Bras. Une réaction, Renaud Duterme.
Mais ce qui est révélateur aussi, je trouve, c'est ce qu'il dit au début, c'est que ce qui est très difficile dans ce genre de cas, c'est aussi de trouver le propriétaire à qui appartient le navire. Puisque, et là, on a un peu un parallèle, on peut faire un parallèle avec les multinationales qui sous-traitent des différentes usines en Chine pour la fabrication d'objets. Et donc, le problème, c'est que c'est des filiales de filiales pour, évidemment, déresponsabiliser, justement, déresponsabiliser les responsables. Et donc, c'est pas pour rien que la plupart des navires incriminés dans les marées noires sont immatriculés au Liberia, puisque le Liberia s'est vraiment fait le champ, comme c'est un paradis fiscal entre guillemets pour l'immatriculation des bateaux où tout est quand même relativement opaque, etc. Donc on est clairement encore dans une responsabilité ou une déresponsabilisation plutôt de ces acteurs que sont les multinationales du pétrole.
Mais justement, c'est tellement compliqué d'accuser et de faire payer ces multinationales que est-ce que le risque c'est pas que les gens abandonnent les poursuites finalement?
Si, ben tout est fait pour qu'ils abandonnent, puisqu'en général ces multinationales ont des moyens financiers assez considérables pour se payer différents avocats, et donc clairement il y a vraiment une pression pour abandonner les poursuites.
On arrive au terme de la première partie de cette émission. Restez avec nous, Renaud Duterme. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes, juste après le Flash Info.